Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Souria Mahi est une enfant d'Auroville. Elle y est née, y a grandi avant d'aller faire un PhD en Angleterre. Le sujet de son doctorat, Auroville et son fonctionnement. Souria Mahi, je me rapproche de toi pour pouvoir saisir l'essence, le timbre de ta voix pour cette nouvelle émission de Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est des rencontres en France, à l'étranger, en voyage avec des réalisateurs, des photographes, des écrivains, des voyageurs, des expatriés. Et là, je me retrouve quelque part dans le sud de l'Inde, pas trop loin de la ville de Pondichéry, ancien comptoir français, dans une ville internationale du nom d'Auroville. Avec moi, Souria Mahi. J'ai voulu te rencontrer parce qu'on m'a dit que c'est une enfant d'Auroville qui est née ici. Donc peut-être à toi la parole. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter.
Bonjour, merci. Donc je m'appelle Souria Mahi, j'ai ce nom sanskrit assez particulier pour une jeune femme blanche parce que je suis née ici en Inde, à Auroville. Donc mes parents se sont rencontrés ici, parents anglais, mère alsacienne, qui ont tous les deux fait leur propre cheminement pour arriver à ce projet utopique d'une expérience d'une société alternative. Et qui ont décidé d'avoir des enfants ici, donc dont moi et mon petit frère. Donc né ici, éduqué ici, et puis finalement reparti en Angleterre pour des études supérieures. Et actuellement, je viens de rentrer à Auroville après avoir complété une thèse sur Auroville, parce que déjà la vie aurovillienne me passionne. J'adore vivre ici, je trouve que c'est un endroit magique, extraordinaire, mais je voulais vraiment comprendre... de comprendre dans sa complexité, dans ses contradictions et qu'est-ce qui marche vraiment et pourquoi ça marche.
Belle introduction. Maintenant, on va décortiquer tout ça. On va prendre un petit peu de temps et je vais revenir dans ton enfance. Donc, enfant d'Auroville, quand on est enfant, on grandit dans un cadre et un contexte. On ne se rend pas forcément compte de la différence du lieu dans lequel on se retrouve. Donc, à quel moment est-ce que tu as compris qu'Auroville était quand même un lieu un peu particulier par rapport à tout ce qui peut se passer dans le reste du monde, que ce soit au niveau éducatif, au niveau santé, au niveau social, enfin à tous les niveaux finalement, à tous les niveaux de la vie.
Alors dans mon cas c'est assez facile parce que quand j'avais 8 ans, on est reparti vivre en France pendant 4 ans. C'était pas planifié, on est parti juste en vacances, puis pour des raisons familiales on a dû rester. Donc j'ai fait l'expérience que peu de jeunes Auroviliens ont fait, enfin d'enfants d'Auroviliens ont fait, c'est-à-dire de partir et de passer quelques années de leur enfance autre part. Et j'avoue que c'était assez difficile. Ça m'a beaucoup apporté aussi d'avoir eu cette expérience. C'était donc en Alsace. Mais j'ai vraiment ressenti particulièrement, je dirais, la différence et dans le contexte de l'éducation, qui était beaucoup plus classique, beaucoup plus portée sur l'éducation intellectuelle, alors qu'ici à Auroville, l'éducation était... déjà était complètement insérée dans la vie, dans le quotidien, dans la vie des gens. Très, avec des portées très artistiques, culturelles, des questionnements, de l'environnement. Donc c'était vraiment, c'était comme un champ d'expérience plutôt que une expérience scolaire. Donc ça, j'ai vraiment ressenti la différence. Le fait d'être entre quatre murs pour apprendre au lieu de vraiment respirer la vie autour de nous. Et l'autre différence dont je me souviens qui m'avait beaucoup marquée, c'était le fait de ne pas simplement pouvoir aller chez des amis, ouvrir la porte, trouver des gens. C'est le fait que les gens vivaient dans leur maison, à leur bureau, un peu renfermés des autres, alors que ici tout était très fluide. Les portes étaient toujours ouvertes, on rentrait quasiment en tant qu'enfant, quasiment où on voulait, on ressortait, c'était très... très libre, très convivial. Donc ça, c'est une différence que j'avais beaucoup ressentie en tant qu'enfant.
De 8 à 12 ans, tu es donc en France. Est-ce que tu te souviens avoir eu envie de rentrer à Auroville à ce moment-là? Comment est-ce que tu vivais ça avec ton regard d'enfant, sachant que tes copains, ton enfance était ici?
Ouais. Alors, je dirais que pour moi, personnellement, je me suis assez bien insérée parce que j'avais des capacités, disons, intellectuelles. Donc pour moi, l'éducation... Enfin, ça m'a aussi posé un challenge que je n'avais pas ici et qui me nourrissait. Mais je me souviens lors d'une visite, une visite à Auroville pendant dans la période de ces années, où on est rentré et on a passé quelques semaines ici. Et tous mes revenus, en fait, c'est là où j'ai vraiment eu l'opportunité de revoir Auroville à travers le regard de quelqu'un qui avait vécu ici, vécu ailleurs, et de revenir et de vraiment comprendre enfin toute cette richesse. Et on était à la maison, je me souviens très bien, c'était un soir, quelques jours avant de partir, j'ai dit à mes parents, j'avais donc 11-12 ans, j'aurais dit, vous pouvez appeler la compagnie d'avion et annuler mon billet, parce que je ne rentre pas. Je vais rester ici. Et cela a eu suite à une belle conversation familiale, on a tous décidé en fait ensemble, dans l'heure qui a suivi, qu'on allait tous rentrer. Donc c'était, je ne sais pas si mes parents y pensaient déjà, mais en tout cas c'était vraiment, ou si c'était vraiment un déclic qui a un peu forcé ou motivé la décision. Et ils ont dit, d'ici, on va rentrer, on va finir l'année scolaire, on va un peu ranger nos affaires là-bas et on va revenir l'été, vous allez reprendre avec l'année scolaire. Et j'étais assez contente, mais j'ai dit, ok, c'est très bien, vous pouvez faire ça, mais moi je reste, je vous attends, jusqu'à l'été. Donc c'était quelque chose, j'ai vraiment senti très fortement ce besoin de rentrer à Auroville.
Pourquoi ?
C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est surtout au niveau un feeling, une sensation, enfin je le ressens aujourd'hui aussi en tant qu'adulte, une sensation de me sentir tellement plus en vie ici qu'ailleurs. Sentir tellement plus la vie en moi, la vie dans les autres, les possibilités d'expérience, tout est à portée d'être en fait ici. Alors que, en tout cas, mon expérience en France et puis ensuite en Angleterre, aux États-Unis, je sentais pas cette facilité, cette ouverture sur la vie en tant qu'expérience libre et pour nous de découvrir.
Alors tu es la personne parfaite pour parler d'Auroville, tu as fait un PhD ou un doctorat, hein, c'est ça, sur cette ville internationale. Donc on va revenir aux origines, tes parents ont fait le choix de venir ici. Pourquoi ? Quelle a été leur motivation ? Est-ce que c'est lié à cette utopie, à la mer, l'idée de la création d'Auroville ? Donc on va revenir un peu sur l'origine d'Auroville, les piliers de la charte, le projet de cette ville.
Donc Auroville à l'origine, c'est... Je ne sais pas si on peut l'appeler une idée, un projet, une aspiration peut-être. Une aspiration de créer un champ collectif où ceux qui voudraient essayer, tenter de participer au développement d'une société plus spiritualisée, plus intégrale, est le mot qu'utilisait Sri Aurobindo, c'est-à-dire qui considérait tous les aspects de la vie comme étant, comme faisant partie d'un parcours spirituel, qui pourrait être perfectionné avec une intelligence supérieure. C'est ça qu'il voulait vraiment dire par la spiritualité. Et donc c'est vraiment un lieu, c'est pas une utopie dans le sens dont on le comprend souvent, c'est-à-dire qu'on sait exactement, il faut que ce soit parfait, et on sait exactement comment ça doit marcher, mais plutôt un espace où les gens pourraient se réunir pour vraiment et sincèrement tenter ensemble de le développer collectivement. Donc c'est très participatoire, c'est pas comme dire ok je vais rejoindre ce projet qui est déjà défini et simplement m'insérer dedans. Et tu m'avais demandé pourquoi est-ce que mes parents sont venus ici et c'est beaucoup à cause de ça. Mon père avait fait partie un peu des, comment dire ça, des protesters, militants à Londres pendant les débuts des années 70. Et lui, ce qu'il raconte toujours, c'est que ses amis parlaient toujours de la révolution. Et lui, il se demandait toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on la gagne ? Pour lui, c'était bon, je pense qu'on va la gagner, mais qu'est-ce qu'on va construire après ? Et c'est pour ça que le projet d'Auroville l'a vraiment interpellé, parce que c'était un projet créatif, c'est un projet où on allait vraiment essayer d'élaborer ça ensemble. Donc voilà, donc je pense qu'Auroville, c'est vraiment fondamentalement, c'est ça.
Cette notion de vivre autrement, essayer de trouver des codes autres que ceux qu'on connaît dans notre système à nous pour développer cette notion de la conscience aussi.
Et pas que autres, c'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives qui existent dans beaucoup d'endroits du monde et Auroville en fait partie, mais c'est pas que de créer des alternatives. Auroville s'engage vraiment à regarder envers le futur et à développer quelque chose vers le futur et à développer Donc pas que créer une alternative qui peut exister aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on progress, comment est-ce qu'on continue à améliorer et aller de l'avant, anticiper le futur et essayer de suivre ce fil-là.
Ta maman, pareil, c'était aussi cette envie d'ailleurs de nouveauté, remettre un peu la spiritualité au cœur de son quotidien.
Ma mère, je pense que c'était moins clair en termes de questions, comme termes d'expérience comme mon père, mais c'est quelqu'un qui effectivement avait eu quelques expériences spirituelles, ne savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. A eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a accompagné à Auroville, qui lui a dit, écoute Nicole, je pense que Auroville est vraiment un lieu pour toi. Donc elle a eu un ange qui l'a amené ici et en fait elle a jamais, voilà, c'était clair, une fois qu'elle est arrivée, c'est quelqu'un qui s'est très vite investi jusqu'à aujourd'hui et très investi dans le projet.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a un mot qui revient souvent, j'aimerais qu'on le définisse parce qu'il peut effrayer aussi, c'est le mot divin. Qu'est-ce qu'on entend par le divin ?
Divin, c'est le mot qui est beaucoup utilisé à Auroville, mais le mot peut être utilisé en tant que conscience. C'est simplement l'idée qu'on fait partie d'un monde où il n'y a pas que notre propre conscience en tant qu'individu, mais il y a aussi une intelligence plus profonde, plus omnipotente, omniprésente, omnivoyante qui existe. Alors, on utilise le mot divin parce que ce n'est pas une religion, donc on n'utilise pas les mots Dieu, ce n'est pas une question de Dieu ou de quelque chose qui est... figuré, déifié, mais c'est plutôt une énergie. Alors d'autres, dans les traditions indigènes, on pourrait considérer ça comme un Mother Nature, on dirait, donc je sais pas comment dire ça en français, Pachamama, voilà. Donc c'est beaucoup plus un sens d'une énergie globale plutôt qu'une réification et déification de quelque chose en particulier, d'une figure en particulier.
Alors, ce qui est très intéressant, ce que j'observe et ce que je vois aussi autour de nous en France, c'est ce manque de sens. Tout le monde aujourd'hui, dans cette quête de sens, remet un peu le sens au cœur de nos vies. On se rend compte qu'on s'en est complètement détourné. On s'est laissé bercer par l'illusion du matériel et du matérialisme et du capitalisme. Et on s'est complètement déconnecté et du vivant, de la nature qui nous entoure et de cette spiritualité dont il est question ici.
Oui, tout à fait. Et une chose que j'apprécie beaucoup de la spiritualité aurovillienne, telle qu'elle est comprise et pratiquée en Auroville, c'est-à-dire que beaucoup d'autres communautés spirituelles ou projets spirituels ont certains codes, certains rites, certaines pratiques. Elles sont institutionnalisées d'une certaine forme. Alors que la spiritualité aurovillienne est une spiritualité très anarchiste, dans le sens que, tout simplement, c'est de trouver en soi un centre de quelque chose qu'on sent, qui lui connaît, a une connexion avec un sens plus profond à la vie, et d'essayer de vivre en accordance avec cette chose-là qui est en nous. Donc c'est plus ou moins simplement ça, de se connecter et de vivre...
Soyons en vibration avec nous-mêmes, et comment on fait ? C'est quoi les clés pour être plus en face, plus connecté, plus conscient de nos actes quotidiens, de nos actions quotidiennes? Quelles sont les clés qui sont données ici? Pourquoi est-ce qu'ici, c'est un lieu dans lequel on aura peut-être plus de facilité à se relier à soi-même, à se relier aux autres, à se relier au divin, donc pour utiliser ce mot-là, mais pas le comprendre comme Dieu, mais comme énergie plus haute, plus grande que nous. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est plus facile? Est-ce qu'il y a des clés particulières? Dis-moi.
Oui, c'est un environnement qui facilite cela, c'est certain. Je pense qu'au niveau sociétal, déjà le fait que ceux qui nous entourent, on le sait, sont aussi ici avec cette quête de sens. Donc c'est pas quelque chose qu'on sent qu'on doit un peu cacher, qui est très personnel. Donc je pense que simplement cette connaissance du support qu'il y a pour cette exploration nous aide, nous facilite à y aller plus franchement et à oser et à écouter. Et de ne pas se dire « je suis simplement complètement folle d'essayer de suivre un autre sens ». Après, il y a des clés très, très, très pratiques, une notamment dans l'éducation aurovillienne qui s'appelle « Awareness through the body », traduit en français comme « l'éveil de la conscience ». Comme tu l'avais soulevé, comment est-ce qu'on peut être conscient de nos actes, peut-être même de nos pensées, de nos comportements? Eh bien, ETB, c'est tout un programme qui, justement, éveille cette conscience à travers des méthodes très pratiques pour apprendre dès l'enfance à commencer justement à devenir conscient de quelles sont mes pensées actuelles, quelles sont mes émotions envers cette situation, comment est-ce que je me comporte face à cette situation. Et ils explorent ça à travers des jeux, à travers des activités plus méditatives, introspectives, mais aussi des gros challenges tels que des espèces de courses d'obstacles qu'il faut franchir, mais guidés par un facilitateur qui les amène à réfléchir comment est-ce que je me sens, est-ce que je suis confrontée actuellement, intérieurement, dans mes pensées, dans mes limitations réelles de mon corps, dans les émotions telles que l'anxiété, la peur. Donc vraiment une espèce d'entraînement de la awareness, de l'attention portée sur ces actions.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Toi, enfant qui a grandi ici, à quel moment est-ce que tu as mis le mot spirituel dans ta vie? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on choisit, le chemin, la quête spirituelle. C'est à un moment donné, on se dit, tiens, on tombe sur un bouquin, on fait une rencontre et on se met vraiment sur ce chemin, sur cette quête spirituelle.
Mais une autre chose que j'ai beaucoup appréciée de mon éducation, c'est justement qu'on n'a pas vraiment utilisé le mot spirituel. Et tu m'as demandé quand est-ce que j'ai commencé à utiliser ce mot. Et je pense que c'était vraiment quelque chose qui était simplement... appris, proposé, mais sans jamais dire voilà la spiritualité, parce que la spiritualité au sens orwellien n'est en fait pas séparée de la vie. En fait, c'est simplement une approche à la vie de tous les jours qui est plus consciente. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été facilité depuis un très jeune âge, et c'est que beaucoup plus tard, peut-être en tant qu'adulte ou en tant qu'ado, que j'ai commencé à utiliser le mot spirituel pour le définir. Mais en vrai, c'était vraiment quelque chose de vécu et pas du tout quelque chose de choisi intellectuellement, de compris intellectuellement pendant longtemps.
On a tous, enfants, dans l'adolescence, des rêves. On a tous une envie de devenir quelque chose. Donc, force de l'éducation que tu as eue ici à Auroville, quand on te posait la question, quand tu avais 14, 15 ou 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard sur Yamaï, ce que tu savais répondre?
Alors, j'ai pas de souvenir de quand j'étais adolescente. J'ai un souvenir beaucoup plus tôt, quand j'étais enfant, c'était toujours je veux travailler pour Greenpeace. Ça, c'était ma quand j'étais jeune. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup une conscience de l'environnement qui avait été très forte ici, parce que justement un des premiers projets d'Auroville avait été l'afforestation de cet espace qui avait été assez désertifié. Donc voilà, cette relation à la nature est aussi très importante ici. Donc ça, c'était quelque chose qui m'était venu. Adolescente, je ne me souviens pas. Aujourd'hui, mon rêve, ce serait de monter une université alternative à Auroville. Je pense qu'elle existe déjà sans être nommée. Mais justement, je vois qu'Auroville est un lieu où... beaucoup d'aspects de l'être sont nourris, sont amenés à se développer. On voit ça dans les enfants, on voit aussi ça dans les adultes qui viennent ici. Je pense que c'est aussi de par le fait que, même en tant qu'adulte, quand on se rejoint à Auroville, on peut changer de profession très facilement. On n'a pas besoin d'avoir été formé dans une certaine profession pour avoir accès. C'est-à-dire que le travail, notre lieu de travail, champ de travail à Auroville peut vraiment devenir un site et est pour beaucoup un site d'une éducation perpétuelle, qui d'ailleurs est un des idéaux au cœur de la charte. Tu me posais la question de la charte avant, donc je crois que c'est le quatrième point. Auroville sera le lieu d'une éducation perpétuelle. Et je pense que ça, c'est très important aussi au projet justement utopique.
Cette notion d'éducation perpétuelle, elle est liée à cette notion du progrès aussi. On parle beaucoup du mot progrès. Auroville est un lieu pour le progrès humain, pour progresser soi. En fait, toute sa vie, on est là pour apprendre.
Voilà, c'est tout à fait lié. Et je pense que ça existe à plusieurs niveaux. Donc, de l'un, le progrès individuel, de l'autre, le progrès en tant que société. Donc ces deux aspects, l'individuel et le collectif, l'interne et l'externe, sont tous valorisés également, je dirais, dans la société eurovillienne.
Toi, Soria Mahi, tu as quand même fait le choix de temps en temps sortir de cette bulle. Hein. Euroville peut être aussi comparé un peu à une bulle où finalement on est en Inde, mais on n'est pas tellement en Inde, on est vraiment à Euroville. On ne peut pas comparer Euroville à l'Inde, c'est complètement différent. Donc tu as fait ce choix d'aller étudier aussi à l'étranger. Tu rentres là après avoir fait un PhD. Déjà, pourquoi avoir choisi de le faire à l'étranger, quitter Euroville, et pourquoi avoir choisi Euroville comme sujet? Tu aurais très bien pu choisir complètement autre chose pour t'ouvrir sur d'autres plans.
Tout à fait. Je ne dirais pas que j'ai choisi Euroville, c'était un de mes profs qui m'a dit, en fait, la première rencontre qu'on a eue, qui m'a demandé, alors, dis-moi, raconte-moi un petit peu d'où est-ce que tu viens. Et j'ai commencé à dire Euroville, et je me souviens toujours de la file d'autres étudiants qui attendaient pour voir ce prof, pour eux aussi avoir leur première réunion sur qu'est-ce que je vais écrire ma thèse, ça c'est pour ma thèse de licence. Et je suis restée là 50 minutes, ils me posaient des questions sur Euroville, comment est-ce que tes parents sont venus, comment est-ce que l'économie marche, comment est-ce que la politique marche, et qui m'a dit, bah, vraiment, c'est sur ça qu'il faut que tu écrives ta thèse donc, de licence. Et là, j'étais tellement surprise parce qu'en fait, je me rendais pas compte que Euroville pouvait être intéressant ou paraître relevant pour autre part, en fait. Parce que justement, c'est une petite bulle un peu perdue. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, OK, non, il y a un projet de société ici que des gens de partout dans le monde peuvent comprendre. Et d'ailleurs, ces projets de société alternative, d'utopie, ont existé pendant des années, des siècles, ont été tentés dans différents endroits, de différentes manières. Donc c'est quand même quelque chose que l'humanité cherche, et on voit des exemples de cette recherche si elle est là dans l'histoire. Donc voilà, après...
Donc c'est grâce au regard de tes profs de fac que tu as compris l'importance que pouvait avoir Euroville dans le monde.
Que j'ai compris que ça pourrait être reconnu, que j'ai compris que ça pourrait être assez important pour être un sujet thèse. Il m'a tout de suite dit que je devrais faire un doctorat là-dessus. Mais surtout que j'ai senti que c'était valide pour moi de faire cette recherche en tant que membre d'Euroville. Parce qu'en fait, je pensais, ils vont pas penser que c'est sérieux si c'est une membre d'Euroville qui fait cette recherche. Mais je suis très contente de voir que l'Académie change et qu'ils considèrent que maintenant, en fait, les regards de ceux qui font partie d'une société peuvent, en fait, avoir un regard tout aussi sincère, rigoureux et d'une profondeur autre qu'un chercheur externe. Donc voilà, et en faisant la licence, j'ai appris tellement de choses d'Euroville que je ne connaissais mais pas du tout, même du fait d'avoir été éduquée ici et grandi ici. Et c'est ça qui m'a amené vraiment à faire ma thèse, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à comprendre encore.
J'aimerais bien que tu me parles des croyances qu'on peut avoir sur Euroville, ce que tu entends, les préjugés que tu entends régulièrement autour d'Euroville, et que tu les déconstruises.
Oui, tout à fait. Alors déjà, donc une préconception qui certainement existe pour Euroville, mais pour beaucoup d'autres sociétés alternatives, c'est qu'elles existent que pour elles-mêmes. C'est qu'en fait, c'est un acte assez, en anglais on dirait selfish, égoïste, de se retirer de la société et de faire son petit projet à l'écart, au lieu de rester dans la société et d'essayer de la changer. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que dans l'historique des communautés internationales, pas qu'Euroville et Euroville incluse, créer ces lieux à part qui ont eu l'espace d'expérimenter avec différentes façons de faire, en fait, des espaces qui n'existeraient pas, parce qu'on ne peut pas faire certaines expériences politiques, économiques, dans des contextes, par exemple, tout à fait capitalistes ou dans le contexte d'une démocratie, qui sont possibles dans un espèce de petit laboratoire, en fait, qui après ont été réinsérés dans des sociétés, notamment dans l'éducation. Il y a beaucoup de pratiques alternatives à partir du 19e siècle aux États-Unis dans des communautés internationales qui après ont commencé à faire partie des programmes scolaires gouvernementaux. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt et qu'il peut y avoir des changements qui sont premièrement élaborés, expérimentés, testés dans ces espèces de laboratoires. Donc ça, c'est un des préjugés. Alors, autre grand préjugé, c'est que Euroville est une ville que pour les Blancs. Ça, c'est un autre grand préjugé. Et je pense qu'il est très important de savoir que déjà 50% de la population est indienne. Et dans les 50% qui restent, il y a effectivement des Européens, des Américains qui sont Blancs. Il y en a qui ne sont pas Blancs aussi, des Européens et des Américains ici, pas Blancs. Mais il y a aussi des Coréens, des Japonais, de plus en plus de gens en fait de l'Asie de l'Est qui se joignent à nous. Donc ça, c'est un préjugé important à clarifier.
Auroville grandit, on voit la population qui se développe, donc des gens viennent de différentes régions du monde et continuent à grandir.
Auroville grandit, oui, petit à petit. Il y a des gens qui partent aussi. C'est difficile de savoir pourquoi ils partent. J'ai essayé de faire cette étude, mais déjà, ils ne sont pas toujours contactables. Mais j'imagine que ça pourrait être pour beaucoup de raisons personnelles ou qui simplement ils sont désenchantés par le projet. Mais oui, effectivement, il y a des nouvelles personnes qui se rejoignent. Et je dirais dans les années récentes, beaucoup plus de jeunes personnes, notamment à travers le service civique français. Donc le gouvernement français a reconnu certaines missions à Auroville en tant que mission de service civique, ce qui a permis à beaucoup de Français de venir et passer une année ici, même s'ils n'auraient pas pu financer ça autrement. Donc on voit une insertion de jeunes et on voit surtout récemment des gens du restant de l'Asie qui se joignent à Auroville. Ouais.
Toi, tu étais dans quelle école ici à Auroville, enfant ?
Alors, il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui. Donc j'étais à la première kindergarten, donc l'élément jardin d'enfants qu'il y a eu à Auroville, qui s'appelait la kindergarten, après la transition. Et suite à ça, donc Future School n'existait pas encore. Nous avons donc trois lycées. J'en suis sortie aussi avec des examens qui permettraient que cette scolarité soit reconnue en Angleterre, où je suis allée à la fac, parce que j'ai pris des examens en tant que candidat libre.
Ça, c'est génial. Donc, il y a cette exemplarité qui met en avant le fait qu'on peut très bien étudier dans un système hors contrat, hein, hors cadre éducation nationale ici à Auroville, mais réintégrer un système éducatif classique universitaire, ce qui est ton cas.
Tout à fait, à 100%. Il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, est-ce que tu avais le même niveau quand tu as commencé à la fac en Angleterre ? C'était pas que moi, il y avait une autre personne d'Auroville qui était dans la même fac et qui ont commencé en même temps. Et je dirais qu'on avait déjà un niveau peut-être même un peu plus élevé intellectuellement, enfin au niveau académique, que ceux qui se rejoignaient. Mais surtout, on avait l'habitude de prendre charge et de prendre responsabilité pour notre propre éducation. Chose que souvent, on n'apprend qu'à la fac. Parce qu'avant, toute notre scolarité est vraiment très programmée. On nous dit quoi apprendre, comment l'apprendre, quand l'apprendre, quand être à l'école. Alors qu'ici, c'était vraiment, il fallait vraiment qu'on soit responsable, en vrai, qu'on prépare déjà ces examens qui sortaient du système eurovillien. Et donc, on était beaucoup plus prêts à... On était beaucoup plus responsabilisés, en fait. Beaucoup plus adultes, déjà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir extraire d'Auroville pour l'appliquer à l'ensemble de la planète ? On sait qu'aujourd'hui, le monde va pas très bien. On parle d'effondrement, de collapsologie. Enfin, on parle clairement d'un système en déclin, que ce soit sur le plan écologique, mais aussi le plan économique, le plan social, même le plan humain. Si on devait changer le monde, cette notion de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, quel est ce changement que tu aimerais observer ? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir exporter d'Auroville pour faire un copier-coller à l'ensemble de la planète ?
Je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'encourager les gens à oser expérimenter. Et à oser expérimenter dans leur propre vie, avec leurs propres amis, avec leur propre famille, ou si ce n'est pas avec leur famille, avec des amis, des gens qui pensent similairement, et de monter des propres expériences de coopératives, d'alternatives, par exemple, à des systèmes capitalistes, de façon de prendre des décisions politiques, même si c'est à un petit niveau. Mais je pense que le changement peut vraiment se commencer, peut vraiment s'emballer, en fait, de par ces expériences. Et je pense qu'on n'ose pas, face à ce grand système qui semble tellement powerful, qui semble tellement dominant, puissant. Je pense que c'est très difficile de dire comment est-ce qu'on va changer ce système, mais je pense que si on commence déjà par dans nos propres vies, oser, sincèrement, d'essayer de faire autrement, je pense que ça peut inspirer, continuer à inspirer. Et dans l'exemple d'Auroville, ce qu'on peut voir de 50 ans, c'est que ces petites expériences, parce que même à Auroville, il y a eu des petites expériences, commencées par 10 Auroviliens, et qui ont aujourd'hui vraiment formé la façon dont Auroville s'est institutionnalisée, ont vraiment formé des services publics dans Auroville qui sont vraiment alternatifs. Mais ils sont alternatifs parce que, avant qu'ils soient fondés, il y a des gens qui ont fait des petites expériences desquelles on a appris pour pouvoir justement arriver à quelque chose qui tenait la route déjà et qui avait déjà fait face aux complications auxquelles ces choses font face et les avait incorporées en fait dans une proposition de modèle. Et je pense qu'on a vraiment perdu ce sens de relationnel profond avec les autres êtres humains et avec la nature. Et je pense que ça d'ailleurs c'est un projet qu'on peut vraiment commencer à travailler dans notre vie de tous les jours. Après, étant une social scientist, je suis très consciente qu'il y a des problèmes systémiques qui font que des fois on n'arrive que à être, on est dans des relations hiérarchiques. Dans un système capitaliste, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent, et donc tout ça conditionne les façons dont on peut être en relation l'un avec l'autre. Donc, quand je dis qu'il faut commencer à faire des expériences et à tenter des transformations dans la vie personnelle, je pense qu'il y a aussi une transformation au niveau collectif et sociétal qui doit se faire. Mais je pense qu'une personne ne peut pas tout faire, et justement, comme tu disais, il faut trouver un peu sa place dans ce plus grand mouvement, disons.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.